Les rencontres cinéma de Manosque débutent aujourd'hui.
C'est une semaine de cinéma et d'humanité qui s'ouvre à 18h au Théâtre Jean le Bleu. Cette 29e édition ne va pas dépareiller. Depuis 30 ans déjà, et sous l'impulsion de Pascal Privé, la cité de Giono accueille réalisateurs et comédiens dans un cadre cinéphile et convivial. Des films rares et originaux, comme des œuvres plus marquantes, sont projetés dans une ambiance concentrée et détendue à la fois. Cette année, encore, les spectateurs iront en Irak, en Colombie, au Yémen, en Algérie, en haute mer, pêcher la morue, en Chine, en Finlande et, ou plus près, dans le bois de Boulogne ou bien encore à Man. Que des voyages à rêver et réfléchir à cette bonne vieille terre où grouillent des milliards de petits êtres en quête de sens et d'histoire. Les spectateurs pénétreront aussi dans les locaux de Charlie Hebdo, aux côtés de Bernard Maris, disparu tragiquement avec ses amis, ses frères, le 7 janvier 2015. Des moments exceptionnels sur grand écran que nous présente Pascal Privé au micro de François Malabave.
Pascal Privé, la 29e édition des Rencontres Cinéma de Manosque est sur les rails.
Eh bien oui, on commence ce soir avec deux très beaux films qui vont être présentés en présence de leur réalisateur. Donc il y a la première séance, c'est Seul Ensemble. C'est un documentaire qui a été tourné, un premier film qui a été tourné par quelqu'un qui est directeur de la photo par ailleurs. Il est parti avec les marins de l'Hermine, pêcher la morue dans les mers du Nord, du Grand Nord. Fasciné par ces gens qui consacrent leur vie à naviguer dans telles conditions, parce que c'est des grands bateaux, usines, et une vie extrêmement dure, rythmée par la mer, par la pêche. Comment ils vivent ça? Et en fait, c'est quelque part, c'est des passionnés. Ils se recréent eux-mêmes des motivations aussi, parce qu'ils ont des choses qui leur plaisent dans ce métier. Ils les disent. C'est un film avec de très très belles images. Et il se trouve que dans le programme, il y a une espèce de thématique sur le travail, puisqu'il y a plusieurs films autour desquels ça revient, et que le suivant est lui aussi un film tourné à Alger, un premier film aussi d'Hassen Ferhani, que nous avons en avant-première, qui va sortir à la fin du mois de février. Et c'est un très très beau documentaire qui a été tourné dans les abattoirs à Alger. Et ce qui intéresse le réalisateur, c'est pas du tout de décrire les abattoirs, lui s'intéresse aux personnages qui travaillent là, et en particulier aux jeunes, et à leurs rêves, et à tout ce qu'ils aimeraient faire, et les relations qu'ils ont ensemble, et les relations aussi qu'ils ont avec ceux qui sont là depuis 40 ans, comment, où en sont aussi les rêves de ceux qui sont en train de finir leur carrière dans un tel endroit. C'est un film qui est assez surréaliste par la façon dont il est traité. Les dialogues sont absolument étonnants. À la fois, il parle de choses difficiles. C'est un film qui parle de l'état de l'Algérie aujourd'hui, bien sûr, qui est hors champ. Il y a aussi énormément d'humour qui vient de la magnifique langue algérienne, comme on le sait, est un dialecte un peu particulier.
Et puis une modification importante en ce qui concerne la soirée inaugurale sur les invitations.
Alors les invitations, non, il y a des invitations qui sont envoyées au nom du président de la DLVA et aussi à nos partenaires, tous les gens qui sont comme ça concernés. Mais par contre, c'est une séance que nous avons voulu, comme les autres cette année, donc qui sera simplement payante, comprise dans l'abonnement, et on espère que les spectateurs comprendront que nous avons des raisons pour cela. Et entre autres, il y avait aussi une chose, c'est que c'est une vraie séance, c'est-à-dire on fera vraiment une discussion avec David Kremer, le réalisateur du premier film, d'autant que ces deux réalisateurs, qui sont là le mardi soir, ne pouvaient venir que ce jour-là. C'était important de leur consacrer des vraies séances de cinéma, et c'est une séance comme les autres, sans plus ni moins. Et les films sont d'ailleurs repris le lendemain matin, comme ça va être le cas très souvent dans la semaine, puisqu'il y a des projections en matinée au Théâtre Jean le Bleu et au cinéma Le Lido, et que toutes ces séances qui sont annoncées dans le programme sont accessibles à tout le monde, même si nous les mettons en particulier le matin comme ça, pour que des lycéens, des collégiens ou même d'autres séances destinées aux primaires et aux maternelles puissent être fréquentées par les écoles avec leurs professeurs.
Et puis Pascal Privé, pendant toute la semaine, quelques temps forts sur ce festival?
Des temps forts, on va dire que ça va être à chaque séance. Non, mais au-delà de la plaisanterie, c'est vrai que chaque film qui est proposé, je l'ai choisi avec des raisons qui peuvent être diverses. Il y a les qualités esthétiques des films, il y a l'intérêt des démarches des cinéastes, il y a des films qui sont plus ou moins réussis, il y a des films qui plairont à tel spectateur et pas à tel autre, ça je le sais bien. C'est normal, c'est le rapport aux œuvres qui change. Il y a aussi la diversité, la volonté de proposer des écritures cinématographiques différentes, des ambiances de cinéma différentes pendant les projections. Ensuite, par exemple, nous allons accueillir un cinéaste colombien qui s'appelle Nicolas Rincongil, dont nous présenterons trois films, donc le mercredi et le jeudi soir, deux films le mercredi, et c'est une trilogie, ce sont les trois premiers films de ce jeune cinéaste, enfin les trois premiers longs métrages en tout cas, et d'emblée il s'est lancé avec la volonté de faire une trilogie sur son pays, tournée dans son pays, que comme on le sait a subi plus de 20 ans de guerre civile, avec des millions de déplacés, il y a 220 000 morts je crois, dans la guerre civile de Colombie, enfin c'est une tragédie, mais lui ce qui l'intéressait c'était comment survivait dans de tels moments la culture populaire, y compris aussi la langue et l'imaginaire, et comment les gens racontent leur expérience de vie, mais en reprenant aussi toutes les contes, toutes les croyances qu'ils ont, avec lesquelles ils ont été élevés, éduqués quand ils étaient dès qu'ils sont enfants, et comment avec tout ça ils remettent leur conception du monde en ordre, si j'ose dire, sachant aussi que il est question de sorcellerie, de divers esprits comme le moine qui emmène les jeunes filles sous l'eau dans le fleuve pour les séduire, parce qu'il y a des jeunes femmes qui pêchent, il y a des hommes et il y a aussi des jeunes femmes qui exercent la pêche dans ce fleuve. Donc il y a des légendes comme ça. Et en fait, le moine aujourd'hui, il est un peu dépassé par les événements, parce que ce qui se passe, c'est plus les jeunes filles qui disparaissent sous l'eau, mais le fleuve qui charrie des cadavres qui sont le résultat des exactions des paramilitaires. Donc tout ça se remet en ordre dans les contes et les légendes. Et ce sont trois films, donc, qui ont été remarqués dans plein de festivals internationaux auparavant, le dernier ayant été terminé au début de 2015.
Il y a un événement aussi dans votre programmation, Pascal, c'est tout simplement Homeland.
Alors Homeland, c'est un événement de cinéma. C'est un film complètement hors norme, d'abord parce qu'il fait plus de 5 heures. Il est présenté en deux parties qu'on peut voir éventuellement séparément, mais qu'il est bienvenu de suivre entièrement. Le cinéaste Abbas Fardel est un cinéaste irakien qui a fait d'autres films. Et pendant qu'il tournait en Irak, il filmait sa famille. Et donc il était là-bas avant que soit déclenchée la deuxième guerre du Golfe, avant la chute de Saddam Hussein. Donc il filme sa famille à ce moment-là, et sa famille attend la guerre, puisque la deuxième guerre du Golfe, on a su longtemps avant que ça allait venir. On attendait, si ceux qui se rappellent ce moment. Donc plusieurs mois avant, on savait que les hostilités allaient se déclencher un moment, mais on ne savait pas quand. Ces gens se rappellent la première guerre du Golfe, mais en même temps, ils vivent en famille, les enfants vont à l'école, les parents s'occupent de savoir s'ils ont bien fait leurs devoirs, les enfants jouent, et Abbas filme en particulier son jeune neveu, ses amis, ses nièces, enfin les jeunes de sa famille, dans cette situation. Et puis ensuite, il est de retour quand la guerre est déclenchée, il est de retour en France, et il retourne peu de temps après. Donc après la chute de Saddam Hussein, l'Irak qui est sous la coupe militaire de l'Amérique, hein, en particulier la capitale, Bagdad, et puis cette démocratie que les gens espèrent. Et qu'est-ce qui arrive en réalité ? Une sorte, on va dire, de chaos. Et donc le deuxième film va raconter ça, il va raconter comment cette même famille vit ce chaos. Et c'est un film qui est vraiment bouleversant par tout ce qui s'y passe et en même temps qui est extrêmement facile d'accès parce que c'est une sorte de film de famille avec beaucoup de jeunes. Et je remercie beaucoup William du cinéma Lido d'avoir accepté de le prendre. Donc il est proposé le jeudi 4 février, donc avec une séance le matin, une séance l'après-midi, et il sera repris le lundi 8 et le mardi 9 à 18h au cinéma, ce qui permet à ceux qui ne seraient pas disponibles en journée de le revoir en soirée ensuite lundi et mardi. Il y a plusieurs films qui sont repris comme ça au cinéma Le Lido lundi et mardi, qui seront annoncés à la salle. Ils sont aussi annoncés sur chaque page du programme des rencontres qu'on peut consulter sur internet hein, à usez-les.net. Ça c'est un travail de collaboration qu'on mène avec la salle de façon à pouvoir à la fois augmenter l'accès aux projections pour les spectateurs, mais aussi permettre à ce qu'il y ait des projections qui puissent être fréquentées par les classes de scolaires. Et d'ailleurs, on a même déjà organisé plusieurs projections. Je crois qu'on en a déjà 3 qui sont organisées en supplément, spécialement à des horaires, mais là, demandées par des professeurs pour amener des lycéens avec des films qu'ils ont choisis. Donc vraiment, on fait le maximum de ce côté-là et c'est une très très bonne collaboration que nous avons ensemble.
Comme d'habitude, depuis plusieurs années, Pascal Privé, on vous entendra sur nos ondes régulièrement présenter les programmes de la journée, mais il y a un film sur lequel je voudrais qu'on parle, et si possible sans émotion, ça va être difficile, c'est le film de Richard Brouillette qui est consacré à Oncle Bernard et qui nous donne des leçons d'économie. Il nous manque terriblement cet Oncle Bernard.
Et oui, comme tous ceux de l'équipe de Charlie, bien sûr. Richard Brouillette était déjà venu à Manosque. En fait, on avait présenté un important travail qu'il avait fait il y a quelques années qui s'appelle L'Encerclement, qui est un travail autour de l'idée du néolibéralisme, qu'est-ce qui se passe dans l'économie, et où il avait interviewé, rencontré nombre d'économistes mondialement connus comme Stiglitz et bien d'autres. Et entre autres, il avait été voir Bernard Maris. Mais en mars 2000, donc, il l'avait filmé pour L'Encerclement. C'est un film qui a été fait sur plusieurs années. Évidemment, dans L'Encerclement, la démocratie dans les règles du néolibéralisme, il y a la présence de Bernard Maris. Son interview est montée, donc il y a quelques minutes, je ne me rappelle plus combien, mais entre 5 et 10 minutes peut-être. Après les événements tragiques, Richard a ressorti ses rushs. Et il les a regardés et il a décidé de monter tout ce qu'il avait filmé dans les locaux de Charlie Hebdo. On voit passer Cabu. Il a monté même les choses qui étaient destinées à rester hors champ, quoi. C'est-à-dire la caméra s'arrête, on change la pellicule, mais le magnétophone continue à tourner. Donc les discussions continuent, il y a tout. Et donc c'est un film qui est très émouvant parce que il est comme ça, très simple, très brut, mais du coup, on retrouve pendant une heure et demie Oncle Bernard et toute sa gouaille, toute son intelligence, tout son humour. Et c'est vrai que c'est un moment à la fois plein d'émotions, mais aussi plein d'intelligence. Et ça, ce sera dimanche, donc à 14h.
Un grand moment qu'on ne manquera pas, évidemment. On va finir sur une note beaucoup plus légère et ô combien importante en ce qui concerne l'éducation à la vision des films pour les enfants. La possibilité de voir des dessins animés. Et quels dessins animés, par exemple, Le Roi et l'Oiseau de Paul Grimaud sur grand écran. C'est un événement, ça aussi, parce que bon, on sort de chez soi pour aller au cinéma, normalement.
Oui, absolument. Et ce qui est important en plus, c'est de permettre à des enfants de se rendre dans une salle de cinéma et de découvrir les films, même quand ils les ont déjà vus, parce qu'en plus, les enfants adorent voir et revoir les films qu'ils aiment, donc même ceux qui l'ont déjà vu sur un DVD ou quelque chose comme ça, de le voir sur grand écran, dans un moment aussi qui est partagé avec plein d'autres spectateurs. Je crois que ces expériences-là, elles sont importantes et il faut permettre aux enfants de le faire, et c'est avec en accord avec la mission Jeune Public de la MJC, que nous avons fait ce choix, puisque c'est assez récurrent, on passe des films qui ne sont pas des films pour enfants, et Le Roi et l'Oiseau est visible vraiment par tout le monde. Ce n'est pas vraiment un film pour enfants, c'est plutôt un film qui se sert du dessin animé pour raconter une histoire, qu'un chef-d'œuvre. Maintenant, il appartient à l'histoire du cinéma. Il a été restauré récemment, il y a 2 ans, je crois. C'est une très belle projection qui est proposée, et un grand film, donc à partager petits et grands. Et puis, ce sera repris au cinéma, en particulier pour les primaires, par exemple, ou les jeunes collégiens. Et puis, il y a un autre programme qui est destiné aux tout-petits, qui est un programme d'animation plus court, plus simple à regarder, qui s'appelle Les Espiègles.